Radio Tamani, voici nos informations en français.
Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Grève des magistrats. Le gouvernement accepte de payer le salaire des magistrats grévistes. La décision intervient après la rencontre entre le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. L'insécurité au Mali devient de plus en plus inquiétante. Les populations civiles ont été victimes de nombreuses attaques menées par des hommes armés cette semaine. Les conditions des réfugiés nigériens dans la région de Tillabéri en voie d'amélioration. Une mission conjointe de la Commission nationale chargée des réfugiés et le HCR sont à pied d'œuvre pour l'enregistrement de ces populations. Le point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Le gouvernement accepte de payer le salaire des magistrats grévistes. Cette décision intervient après la rencontre du mardi entre le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature et le chef du gouvernement, Soumaïla Boubey Maïga. Après l'examen des points de revendication des magistrats, le chef de l'État a d'abord promis de résoudre la question de leur sécurité avant d'exprimer son regret de ne pas pouvoir satisfaire celle relative à la revalorisation salariale. Le point avec Maria Maïga.
Cette rencontre élargie au ministre de la Justice Tienan Koulibaly et le président de la Cour suprême Nouhoum Tapili a d'abord analysé la première revendication relative à la sécurité des magistrats. L'une des principales priorités des grévistes depuis l'enlèvement du juge de Nyono par des terroristes le 16 novembre 2017. Sur ce point, le chef de l'État a pris l'engagement d'envoyer dans un bref délai 122 agents dans les différentes juridictions du pays. Le déploiement de ces agents devrait selon lui commencer depuis hier dans certaines juridictions. D'ici la fin d'année, cet effectif sera porté à 300 pour l'ensemble des juridictions du pays. Cependant, sur le point relatif à la revalorisation salariale des magistrats, Ibrahim Boubacar Keïta a notifié à ses interlocuteurs que l'État n'est en mesure d'accorder aucune augmentation sur le salaire. Par contre, le chef de l'État a annoncé qu'il y aura une revue générale de la situation salariale de tous les agents de la fonction publique entre décembre 2018 et janvier 2019. Dans le souci de décrisper la tension, le gouvernement a donner des instructions pour le paiement des salaires des magistrats grévistes. Malgré cela, la tension ne faiblit toujours pas du côté des magistrats. Les deux principaux syndicats de la magistrature, le SAM et le SILIMA, exigent l'application du protocole d'accord signé l'an dernier avec le gouvernement avant de reprendre le travail. Un document qui favorise l'augmentation des salaires des juges en fonction du grade et des juridictions.
Et en attendant un dénouement, la grève illimitée des magistrats continue de paralyser le système judiciaire du pays. À Mopti, les centres de détention sont remplis. À la police judiciaire, tout comme à la gendarmerie, les suspects ne sont plus déférés au niveau du parquet. Ousmane Sow est le commissaire principal de la police de Mopti. Il nous explique la situation dans laquelle les policiers travaillent au micro notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Il faut reconnaître que cette grève-là des magistrats a un peu impacté les bons fonctionnements des services de police, c'est-à-dire notamment sur le plan de la police judiciaire. Parce que depuis cette grève a commencé, on n'a pas pu déférer les suspects, les prévenus, les garder à vue à notre niveau devant les parquets. Donc cela handicape beaucoup un peu le travail, surtout sur le plan de la police judiciaire. Parce que la police est liée au parquet sur le plan de la police judiciaire. Sinon, la police administrative continue. Les gens en conflit avec la loi, surtout les prévenus. Une fois arrivés, on les entend ces procès verbal et on les renvoie. Donc, en attendant la fin de la grève, il y a des affaires qui nécessitent vraiment le déferment des intéressés devant les parquets. Donc, on attend toujours des dossiers. Une fois que la grève prenne fin, on peut les déférer.
Il est exactement 18h passé de 4 minutes. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. L'insécurité au centre et au nord du Mali a pris des proportions inquiétantes. Cette semaine, de nombreuses attaques menées par des hommes armés non identifiés ont fait des morts et des blessés au sein de la population civile. Idrissa Sakho nous en dit plus.
À Kaï, dans la première région du pays, des orpailleurs exerçant dans les environs de Kourikoto, dans la commune de Sadiola, ont été braqués et dépouillés le 17 octobre par des hommes armés. Dans leur forfaiture, les agresseurs ont fait usage de leurs armes et blessé plusieurs personnes. Trois blessés ont été évacués sur l'hôpital régional Al-Fousseini Daoudé Kaï et les autres ont été pris en charge à Sadiola. Une enquête a été ouverte par la police nationale. Toujours à Kaï, quatre hommes cagoulés sur deux motos portant des armes de guerre ont attaqué ce mardi aux environs de 20h une boutique à Yatela. Bilan bilan, un mort et un blessé. Les assaillants ont aussi emporté une forte somme d'argent et une importante quantité d'or avant de prendre la fuite. Les recherches sont en cours pour les retrouver. Au même moment, mais un peu plus loin dans le cercle de Koro, trois attaques simultanées ont été commises dans le village de Nene, Amba, Kilimba, dans la commune de Kassa. C'est l'un des témoins, des échanges de tirs nourris ont été entendus, même si l'on ne déplore ni blessés ni morts des deux côtés. Le même jour à Tombouctou, au nord du pays, un véhicule de transport en commun a été victime d'un braquage à 20 km sur la route de Douanza. Les assaillants ont ouvert le feu sur la voiture. Ils ont blessé un passager de nationalité ghanéenne au bras et dépouillé tous les passagers de leurs biens.
Autre sujet, l'Observatoire des droits humains de la paix, ODHP, demande l'implication des institutions et les autorités locales dans la protection des défenseurs des droits humains. Elle a tenu ce matin à Bamako une rencontre de sensibilisation et d'information sur la question. Selon l'ODHP, ces différents acteurs doivent s'imprégner des lois régissant la protection des droits de l'homme pour mieux veiller à son application afin que les défenseurs puissent bien mener leur mission. Sori Ibrahima Boaré est chargé des questions de justice transitionnelle à l'Observatoire des droits humains de la paix. Il est au micro de Juliette Koulibaly.
La question des droits humains au Mali, je peux dire que ça va, mais il y a plusieurs lacunes. Il y a des lacunes. Le droit à l'éducation, d'abord, c'est l'un des droits fondamentaux. Parce que quand vous essayez de voir les droits fondamentaux, il y a ce qu'on appelle le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Alors, combien de Maliens souffrent des maladies? Ils n'ont pas accès à la santé. Combien de Maliens sont analphabètes? Donc, ils n'ont pas droit à l'éducation. Combien de Maliens ne vont pas à l'école? Alors, imaginez un tout petit peu le taux. Vous pouvez le faire tout de suite sans un chiffre. Nous voulons à ce que les institutions de la République, les autorités publiques, les populations, eux aussi les défenseurs des droits de l'homme qui sont les véritables acteurs sur terrain pour la promotion et la protection des droits de l'homme, puissent s'approprier de ces instruments afin de pouvoir appliquer dans ce pays.
Je vous l'annonçais dans les titres, les populations nigériennes ayant fui les violences dans la région de Tillabéri, en particulier dans la commune de Banibangou, verront leur situation s'améliorer dans les prochains jours. Une mission conjointe de la Commission nationale chargée des réfugiés et le HCR sont depuis une semaine à pied d'œuvre pour l'enregistrement de ces populations. Mais la tâche est loin d'être facile pour les équipes chargées de ce travail. Le point avec notre correspondant à Ménaka, Mohamed Ag et Safetane.
La cour de l'hydraulique est devenue depuis quelque temps un camp de réfugiés pour les familles ayant fui les violences dans la région de Tillabéri au Niger. Celle-ci ne cesse de croître depuis l'arrivée de la mission conjointe. Les équipes venues pour l'enregistrement sont débordées et à peine on peut reconnaître un réfugié car des populations autochtones luttent également pour se faire enregistrer en vue de bénéficier d'une assistance alimentaire. Mohamed Lamine Touré, coordinateur de protection de la Commission nationale chargée des réfugiés.
À la base, les populations autochtones n'ont pas compris qu'on est là seulement pour les Nigériens qui ont fui leur pays pour venir s'installer ici à Ménaka. Ils pensent que l'enregistrement concerne tout le monde. La plupart des gens vivent dans une situation très précaire et les gens ne pensent qu'à une seule chose, à une assistance alimentaire. On a essayé de leur expliquer en vain.
Pour ces responsables, le travail aurait pu être plus facile si la mission avait bénéficié d'une plus grande implication des autorités. Mohamed Lamine Touré.
Le travail est très difficile parce que nous, on aurait souhaité vraiment l'implication totale des autorités locales et administratives pour mieux organiser cet exercice-là. Mais il se trouve que ces populations, c'est elles-mêmes qui sont chargées de l'organisation vraiment des familles, des ménages.
Du côté des réfugiés nigériens, la quasi-totalité des familles errements ont été enregistrées, mais les autres ethnies qui n'habitent pas le camp de Fortine sont obligées de batailler dur pour se faire enregistrer. Halidou Sorka, responsable du camp des réfugiés.
Par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont en prison ont été enregistrés. Il ne me reste qu'un seul Daoussak. Je suis en train de me battre afin qu'ils puissent rentrer. Ceux qui font l'enregistrement manquent aussi de reçus.
Aucun chiffre relatif au nombre des personnes enregistrées n'est disponible pour le moment, selon Mohamed Lamine Touré. Mohamed Ag Issa Fétane, Ménaka, Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, faisons un tour dans les régions à Tessit. Deux semaines après la rentrée des classes, près d'une dizaine d'enseignants n'ont toujours pas regagné leur poste. Aux problèmes d'insécurité dont ils se plaignent, s'ajoute le non-paiement du salaire du mois de septembre. Certaines écoles fonctionnent timidement. Afin de sauver la scolarisation de leurs enfants, certains parents ont décidé de les envoyer ailleurs. À Gao, le corps d'un homme âgé d'environ 35 ans a été retrouvé hier au bord du fleuve vers le gouvernorat. Selon certaines sources, l'individu de nationalité nigérienne a été emporté par le courant d'eau. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital de Gao. La troisième édition de la Bourse nationale des semences d'échalotes et d'oignons a débuté hier à Ségou. Cette édition ambitionne de créer un cadre d'échange et de partenariat entre les différents acteurs de la chaîne de valeur en les amenant à proposer une meilleure structuration. Plus de 120 participants venus des régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako prennent part à cette rencontre. L'activité de deux jours a été initiée par l'interprofession de la filière échalote oignon et ses partenaires. Le débat, c'est dans un instant. Bonsoir, Aliou Sidibé. Ce soir, vous allez parler de quel sujet ?
Bonsoir. Qu'en est-il du nouveau projet de découpage administratif au Mali ? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Mamadou Djouara, il est sociologue à l'université de Bamako. Sbeiti Ag Akado est de l'Association malienne pour la sauvegarde de la culture Bela Ikewan Bela. Ahmadou Ndunga Maiga est de l'association Gao Lama Bore et Mamba Koulibaly, président du collectif des 9 régions non opérationnelles.
Merci et très bon débat. Fin de cette édition. Restez à notre écoute dans un instant, le magazine.